Biarritz a vu revenir le flot des touristes amoureux de la Côte d'Argent qui aiment voir la mer se briser sur le rocher de la Vierge, se découper le ciel sur les brisants et goûter le soleil sur cette grande plage qu'on dit unique.
Je rêve Biarritz en été.
Déjà en 2008, Sébastien Tellier rêvait de Biarritz en été sur sa chanson Roche. Alors 10 ans plus tard, peut-on dire que son rêve est devenu réalité ? On ne sait pas, mais en tout cas sur la côte basque, le soleil brille toujours et fait changer de couleur de peau. Mais désormais, Biarritz en été, c'est aussi un festival de musique. Et la première édition, en 2018, a été un coup d'envoi plutôt réussi.
Pourtant le soleil brille sur ma peau.
Créer un nouveau rendez-vous musical de cette importance sur les cendres du Big Festival n'était pas gagné d'avance. Revenons 2 ans en arrière, donc en 2016. Après 8 années d'existence, le Big Festival de Biarritz est définitivement annulé. Et ce festival aurait été l'exemple d'à peu près tout ce qu'il faut éviter dans l'événementiel musical. Annulation d'artistes à la dernière minute, sans remboursement pour le public, des coupures de courant en plein concert, une grève des techniciens du spectacle pendant le festival à cause de leurs conditions de travail, et pour finir 1 million d'euros de déficit pour la 8e et dernière édition. Difficile de faire pire en effet. Mais malgré toutes les frasques et les scandales du Big Festival, la mairie de Biarritz n'a pas souhaité rester sur un échec. En octobre 2017, elle lance donc un appel d'offres pour l'organisation d'un nouveau festival sur sa commune, faire table rase du passé pour proposer quelque chose de complètement nouveau. C'est donc le projet de l'agence artistique Super qui est retenu, et ainsi débute Biarritz en été.
Je vois le ciel bleu.
Au 22 juillet, c'est donc la Cité de l'Océan qui a accueilli l'espace du festival. Idéalement situé à 2 pas de la plage et avec une vue sur l'océan, ce lieu est déjà connu par les locaux pour accueillir tout le mois d'août les Jeudis de l'Océan. C'est un rendez-vous culturel gratuit qui propose au public concerts, spectacles et expositions. Alors le festival Biarritz en été, comme beaucoup de gros festivals, propose une partie payante et une partie gratuite, le off. Ici c'est le village Milady, à quelques mètres de la plage du même nom. Cette partie du festival était donc ouverte à tout le monde et proposait toute la journée des DJ sets, des stands de nourriture tenus par les restaurateurs locaux, mais aussi un disquaire, une librairie et plusieurs stands de présentation des associations locales. Alors pour avoir demandé aux exposants, le festival leur a proposé de venir sur le village sans demander de contrepartie, ce qui est plutôt à leur honneur. Et pour commencer, nous vous proposons donc une déambulation dans ce village Milady. Nous irons à la rencontre de 3 stands qui ont attiré notre attention, puis nous reviendrons ensemble pour écouter l'interview d'Agar Agar, le groupe qui a clôturé cette première édition du festival Biarritz en été. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Donc on est ici au village Milady pour le festival Biarritz en été 2018, première édition de ce festival, et donc le village Milady c'est la partie gratuite du festival, donc où tout le monde peut y aller sans forcément avoir besoin de payer. Et donc on est devant un premier stand, c'est le stand du Flocon à la Vague. Bonjour à vous déjà pour commencer.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et présenter un petit peu du coup le concept de ce stand ?
Oui, alors donc moi je m'appelle Laurence, je suis salariée donc à la Water Family, association du Flocon à la Vague. Nous on travaille donc principalement à sensibiliser et éduquer sur la protection de la ressource en eau. On est basé sur Biarritz, mais on a plusieurs antennes aussi en France. Et donc notre mission première c'est de sensibiliser le public scolaire, les enfants. Donc on fait ça à travers un guide pédagogique que je pourrais vous détailler si vous voulez après.
Okay. Bah déjà pour commencer, qu'est-ce que vous présentez sur le stand ? C'est quoi les premières infos que vous donnez en général aux gens quand ils viennent et s'ils veulent se renseigner ?
Alors sur le stand, on présente à la fois de la documentation, donc un petit flyer de présentation de l'asso, le guide pédagogique de sensibilisation. On a des petits autocollants, des petits flyers, etc. Et puis à la fois on propose des jeux parce que nous c'est vraiment les outils qu'on utilise très souvent. Donc on a le jeu du grand cycle de l'eau qui présente en fait la manière dont l'eau circule en fait de manière générale. Et puis ensuite on a le jeu du petit cycle de l'eau qui présente l'eau qui est consommée dans la maison comment est-ce qu'elle est captée à la base dans le milieu naturel, puis comment elle est traitée, et enfin comment elle arrive dans la maison, puis comment elle est nettoyée par la suite. Et en fait, à travers ces jeux, que ce soit le petit cycle de l'eau ou le grand cycle de l'eau, on sensibilise et on donne des informations très concrètes à travers des chiffres, des notions sur les impacts, les grands enjeux. Et puis à la fois, à travers ces jeux, on donne des solutions et des bonnes idées, des bons gestes pour réduire notre impact et réduire les pollutions.
Bah, tant qu'on y est, du coup, c'est quoi les premiers gestes qu'on peut faire un peu chacun chez soi, chacun de son côté, si on veut participer un peu à ça?
Alors, nous, on rétablit un petit peu les priorités, parce que finalement, on a tendance à beaucoup se centrer sur, en termes de consommation d'eau, on a tendance à beaucoup se centrer sur la consommation d'eau à la salle de bain, la douche, l'évier, couper l'eau, etc. Mais finalement, cette consommation directe à la maison, elle ne représente que 5% de notre consommation quotidienne réelle pour un individu lambda. Et tout le reste, c'est 95% de la consommation, c'est l'eau indirecte, la conso d'eau indirecte. C'est
par exemple, quand on achète un t-shirt qui est fait à base de coton, on sait qu'il a nécessité tant de litres d'eau pour...
Exactement, c'est toute l'eau dont on a besoin pour fabriquer l'alimentation qu'on consomme au quotidien, les objets qu'on consomme au quotidien, les outils de technologie, etc. Et donc finalement, ça, c'est la grosse partie cachée, on va dire, l'eau indirecte, l'eau invisible, et c'est l'eau sur laquelle on remet le focus, et ensuite, justement, on se centre sur des conseils pour mieux consommer à travers une agriculture paysanne et responsable, réduire nos consommations, recycler, donner, réparer, etc.
Donc si on s'interroge un peu, si on veut faire une meilleure gestion de l'eau et participer un peu à tout ça, en fait, c'est toutes les habitudes de consommation qu'il faut remettre en question un peu, selon votre...
Oui, complètement. Et du coup, c'est ce sur quoi on se centre aussi dans nos animations dans les écoles. Et justement, dans ce sens, on invite les élèves et les enfants à choisir, mais des adultes aussi, hein, qu'on sensibilise aussi, bien évidemment, à choisir des éco-gestes. Donc sur ces grands domaines, l'alimentation, les objets, les cosmétiques, parce que je ne l'ai pas abordé, mais on est centré aussi sur les cosmétiques. On invite vraiment les gens à consommer, à acheter des cosmétiques éco-responsables, que ce soit pour les produits ménagers ou les cosmétiques. Et donc on invite les enfants à choisir des éco-gestes sur ces grands domaines. Et ensuite, ils ont un diplôme, le diplôme Water Responsable, qui est validé par nos parrains, des sportifs, parce qu'on a des sportifs autour du monde de la glisse, de l'océan, qui sont parrains de notre association. Et là, les élèves, les enfants, ils sont trop fiers, ils sont super contents. Et ensuite, eux-mêmes, ils sensibilisent leur entourage, leurs parents, leur famille, etc. Donc, c'est ce en quoi nous, on croit.
Bah super, mais merci beaucoup. Alors une petite dernière question, comment ça s'est passé au niveau du contact avec les organisateurs du festival? C'est eux qui sont venus vers vous en vous disant on aimerait bien que vous soyez présents sur le site, ou c'est vous qui avez fait votre candidature? Comment ça s'est passé?
Alors ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément parce que moi je suis nouvelle recrue, j'ai commencé il y a 15 jours, mais sans me tromper, il me semble que c'est les organisateurs qui nous ont plutôt sollicités. Et ensuite on a affiné ensemble sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Là aujourd'hui on propose à la fois les jeux dont je vous ai parlé, le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau, mais également des jeux autour du sport avec un coach sportif, donc pour vraiment axer sur le lien eau, sport, santé. Et on est à côté du stand de nos collègues de Surf Rider Foundation. Donc voilà, on a été invités tous les deux sur l'événement à participer sur cette jolie journée du village Milady.
Ben on va aller les voir, on va voir qu'est-ce qu'ils nous racontent. Merci beaucoup. Alors juste pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos, avoir des infos sur votre association et tout ce que vous proposez?
Alors, donc vous pouvez trouver toutes nos infos sur le site internet de la Water Family, du flocon à la vague. Et ensuite, on a Facebook, donc toujours pareil, du flocon à la vague, Facebook, Twitter et Instagram.
Ben merci beaucoup, et puis ben, bonne fin de festival, et merci à vous.
Très bonne journée à tous, et Milashker, merci, au revoir. Après, peut-être...
Alors on est toujours ici sur le village Milady, donc du festival Biarritz en été 2018. Et là donc deuxième stand qu'on va voir, c'est le stand de Surfrider. Et on est avec quelqu'un qui va nous présenter ça. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom et présenter du coup ce que vous proposez ici aux gens?
Donc bonjour, je m'appelle Lisa, je travaille pour Surfrider Fondation à Biarritz. Donc nous on est ici dans le cadre du village de la Milady pour le festival Biarritz en été. Donc ce qu'on fait nous au stand, donc on a des modules exposés donc sur la thématique des déchets aquatiques, des pollutions des océans de manière générale. Donc pour les enfants, donc ça se base sur le sens du toucher. Donc les enfants viennent, touchent des boîtes surprises.
C'est ça, on voit des petites boîtes en bois où il y a un trou dedans, c'est pas ce qu'on va trouver.
Voilà, c'est ça, c'est un peu pour justement intriguer, engager les conversations, les discussions. Donc les enfants viennent, essayent de deviner ce qu'il y a dans les boîtes que nous on appelle les surprises de la marée.
Donc, c'est pas un peu sale?
Alors, il y a des boîtes qui sont avec des déchets, donc déchets aquatiques, donc rien n'est sale, hein, mais c'est des déchets que nous on retrouve sur les plages. Il y a des boîtes qui sont avec des dépôts naturels que les gens prennent conscience que par exemple les bouts de bois flottés, on les laisse sur la plage, fait partie de ce qui est naturel, donc on le laisse. Voilà, on a des algues, etc. On a des petits œufs de poisson, on a vraiment un peu de tout. Donc ça c'est plus pour les enfants, essayer de leur faire découvrir. On a évidemment tout ce qui est plastique, bouteilles en plastique, canettes, donc un peu l'autre envers de ce qu'on retrouve sur les plages malheureusement.
Oui, vous avez présenté ça, c'est marrant, comme les déchets sont emballés comme si c'était du poisson, ça, présenté donc dans une petite barquette en plastique avec le cellophane dessus. Et donc c'est tout ça qu'on peut trouver dans l'océan, c'est ça?
Oui, voilà, donc ça c'est notre deuxième petit style de boîte. Donc on a des boîtes en polystyrène, là où normalement on retrouve les poissons, sur les étals des pêcheurs. Et nous, à l'intérieur, on a mis tout ce qui est pareil, ce qu'on retrouve sur les plages. Donc il peut y avoir du polystyrène, des canettes, des mégots de cigarettes, bien sûr. Et on a fait ça de manière détournée, un petit peu ironique, pour justement attirer les regards et sensibiliser les gens à ces problématiques de déchets aquatiques.
Et en temps normal, donc le reste de l'année, si vous m'avez dit que vous étiez basé sur Biarritz, c'est quoi votre travail tout au long de l'année de sensibilisation et même d'action pour essayer de réduire ça?
Alors donc nous, toute l'année, on fait beaucoup de choses. On essaye d'être présent un peu sur tous les fronts. Donc on a tout ce qui est sensibilisation auprès des publics, scolaires, en entreprise, grand public, lors d'événements, etc. On a beaucoup d'actions de terrain aussi. Donc on a des équipes qui vont sur le terrain, voir les bénévoles, nos antennes un peu partout en France et en Europe. Donc qui essayent de faire remonter toutes ces problématiques de déchets, de pollution au niveau des institutions, des organismes, gouvernements, collectivités territoriales, etc. Voilà, on a un espace aussi, nous, à Biarritz, à côté de nos locaux, qu'on appelle le campus. On reçoit des scolaires pour faire des sensibilisations sur place, leur expliquer un petit peu différentes thématiques, l'aménagement du littoral, pas uniquement pollution déchets, aménagement du littoral, tri, recyclage, etc. Donc voilà, on essaye d'instaurer des petites pratiques, de proposer des alternatives et de montrer aux gens comment on peut faire autrement pour respecter les océans, notre consommation, l'adapter un petit peu aussi en fonction de ça, voilà. Pour que tout le monde puisse en bénéficier, pas seulement les océans, mais nous dans notre quotidien aussi.
Et il m'a semblé, c'est peut-être une idée reçue que j'ai, mais qu'au final, l'impact des particuliers peut-être sur cette pollution n'est pas forcément le plus important, que en fait, les personnes qu'il faudrait sensibiliser, ce seraient peut-être les entreprises et ceux qui sont sur des gros bateaux et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue?
Alors, il y a beaucoup d'idées reçues dans ça, moi je dirais, parce qu'il faut savoir que les déchets, par exemple, aquatiques, 80% viennent de l'intérieur des terres. Donc ils ne viennent pas des usagers qui laissent leur mégot par exemple sur la plage ou des personnes qui travaillent dans le transport maritime, des pêcheurs, etc. qui abandonnent de manière volontaire ou non leurs déchets. 80% vient de l'intérieur des terres, donc on parle des villes, on parle des maisons, vraiment de la vie au quotidien. Donc ça aussi, nous, ça fait partie de ce qu'on essaye de faire prendre conscience aux gens, que les déchets qu'on trouve sur la plage, c'est pas forcément des personnes qui les laissent sur la plage, ça vient pour 80% de l'intérieur, tout ce qui se passe par les égouts, les lacs, les rivières, vraiment en amont, parfois même au niveau des montagnes, etc. à cause du cycle de l'eau, que tous ces polluants, visibles ou non, finissent dans les océans. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire et essayer de faire prendre conscience que 80% ne se passe pas aux alentours du littoral, mais bien en amont.
Est-ce que vous qui travaillez là-dedans, vous avez l'impression, parce que moi j'ai un peu cette impression qu'il y a quand même une prise de conscience un peu de plus en plus qui se fait autour de ça, mais c'est peut-être parce que je suis dans un cercle particulier. Est-ce que vous, au niveau général de la population, vous voyez ça ou est-ce que pour vous il y a encore beaucoup à faire, quoi?
On voit qu'il y a toujours des discussions à avoir, même si les gens ont été sensibilisés, connaissent un petit peu la démarche, on peut toujours aller plus loin, leur parler un petit peu plus en détail, leur expliquer des types de pollution qui sont très récentes, qu'on a ici au stand d'aujourd'hui, que les gens ne connaissent pas forcément. Donc il y a toujours de l'information à faire, de la sensibilisation à faire. Après, on remarque que les personnes qui vivent aux alentours du littoral sont plus sensibles parce que tous les matins, elles vont faire leur footing sur la plage, elles voient, en fait, c'est devant leurs yeux les pollutions qu'il peut y avoir, par exemple, ou elles nous voient faire des actions ponctuellement dans la région. Les personnes qui sont un peu plus éloignées du littoral, je dirais qu'elles ont peut-être un peu moins de sensibilité, mais c'est... Voilà, c'est compréhensible par rapport à la localisation, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire des événements pendant l'été, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent dans la région, donc qui ne viennent pas forcément d'Aquitaine, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des dialogues avec eux et d'aborder ces thématiques en tout cas.
Et alors, dernière question, il m'a semblé voir très récemment justement une vidéo qui tournait par rapport à la crème solaire. Alors le truc dont c'est difficile de s'en passer quand on vient se baigner à l'océan, mais il me semble avoir vu que la crème solaire bah, du coup va dans les océans en fait et donc participe aussi à la pollution. Est-ce qu'il y a une alternative écolo qui pourrait exister à ça ou pas encore
Alors la crème solaire, gros débat d'actualité. Donc la crème solaire, bien sûr, il y a des alternatives qui sont naturelles. Nous, on n'en a pas, enfin, on n'en propose pas sur le stand ici au niveau des cosmétiques naturels qu'on fait parce que c'est encore en développement. Je sais qu'il y a des alternatives, je connais pas, j'ai pas de marque en tête, j'ai rien de. Voilà, y a pas de... Disons qu'il y a des pratiques qui sont moins pires que d'autres pour l'instant au niveau de la crème solaire en tout cas. La solution parfaite n'a pas encore été trouvée à mon sens, mais voilà, ça n'engage que moi et il y a bien sûr. À favoriser tout ce qui est ingrédients naturels, à base d'huile naturelle qui, elle, se décompose dans les océans et ne flotte pas à la surface, comme on peut voir des espèces de pellicules parfois avec des crèmes qui sont remplies de produits chimiques et assez industriels. Donc bien être attentif aux ingrédients, se renseigner, là c'est un petit peu les conseils à donner pour l'été, en tout cas pour la crème solaire.
Bah merci beaucoup à vous, donc ici sur le stand Surfrider au Festival Biarritz en été. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez peut-être un site internet ou sur les réseaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour voir un peu vos actions?
Oui, bien sûr. Alors vous avez le site internet Surfrider Fondation Europe, tapez Surfrider, vous allez nous trouver. Vous avez aussi notre site un peu plus pédagogique qui s'appelle Ocean Campus. Ocean Campus, voilà, site internet, vous avez énormément de ressources sur tout ce qu'on fait, les ateliers, les événements, nos actions. Bien sûr, on est aussi présent sur Facebook, Surfrider, Surfrider Campus pour le côté plus pédagogique. Donc voilà.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Albigeste dans votre magazine consacré au festival Biarritz en été.
Alors toujours ici sur le village Milady, donc Festival Biarritz en été 2018, et on continue notre tour des stands, et là on est devant un stand de livres qui s'appelle Le Festin Nu. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et présenter un petit peu le concept?
C'est Nico, je suis le gérant de la librairie Le Festin Nu qui se situe à Biarritz. Donc le principe en fait, c'est que nous on a fait toute une sélection de livres autour de la musique, également la culture alternative, la BD, etc. Tout ce qui fait un peu l'identité de la librairie aussi. Donc après notre présence sur le festival, pour nous elle est naturelle parce qu'on travaille à l'année avec la Tabal, la salle de concert Biarritz, et on a un rendez-vous qui s'appelle Mort, et donc ce sont des concerts qu'on fait en collaboration avec eux dans la librairie, et on a des super noms qui passent, et donc voilà, donc c'est à travers cette filiation de plusieurs années qu'on a été invité sur le festival, et voilà, on adore bosser avec eux, on adore l'idée de créer un nouveau rendez-vous sur Biarritz autour de la musique. Donc,
Parce que vous êtes déjà une librairie spécialité dans la culture musique, skate, glisse, tout
non,
ça?
Non, pas forcément, mais on aime beaucoup tout ce qui est culture alternative, que ce soit dans la littérature, la BD, la musique, le cinéma. Donc, en tout cas, on est repéré en tant que tel, donc pour nous, c'est on se sent super bien ici, et voilà. Donc,
Et ça marche bien encore la librairie? Alors je sais que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'avec tous les sites de vente en ligne, Amazon, tout ça qui propose des prix un peu cassés, comment se porte un peu la librairie? Est-ce que les jeunes continuent à y venir?
La librairie indépendante en tout cas, c'est un peu la guerre tous les jours parce que justement on est confronté à ces gros mastodontes du net. Mais l'avantage qu'on a sur eux, c'est qu'on se doit et on est inventif. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je parlais des concerts, c'est une des petites facettes de la librairie. On fait des expos, on fait des ateliers, on fait des rencontres. On fait mille choses autour du livre pour amener les gens vers le livre à un moment. Et notamment, moi, ce que j'adore faire, c'est créer des partenariats. J'adore me déplacer, amener le livre ailleurs que entre les quatre murs de la librairie. Et c'est ce qu'on fait là sur les trois jours de festival. Et c'est que du bénéf quoi, pour la librairie, pour les livres. Et on le voit, les gens sont très très réceptifs. Dès qu'ils tombent sur les livres, il y a un côté hypnotique. Et même s'il n'y a pas forcément l'acte d'achat à chaque fois, peu importe quoi. Il y a ce lien très privilégié à l'objet qui marche. Et voilà, et l'avantage, c'est que c'est un puissant fond. On peut présenter un panel de livres extrêmement riche, donc c'est que du bénéf, quoi. Voilà, pour le bouquin.
Super, ben ça vous inquiète pas, vous avez l'air confiant pour la suite. Ça fait plaisir,
non,
en tout
ouais,
cas.
Ouais. Non, non, il faut se battre, c'est pas facile, mais c'est vraiment un engagement de tous les jours, quoi. On fait ça par passion, et on fait pas ça pour gagner du fric, de toute façon, donc c'est pas du tout notre truc. C'est un vrai engagement citoyen, quoi. Voilà, c'est très important.
Alors, parmi les solutions un peu de proposer des choses autour du livre pour attirer les gens, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer un petit peu le concept de box littéraire là, que je vois marqué derrière moi, en quoi ça consiste.
Ouais, alors on lance un nouveau projet qui s'appelle le Facteur Livre. En fait, on lance au National un site d'abonnement à des box littéraires. Le principe est très simple, vous vous abonnez. Vous pouvez choisir vos formules, donc c'est un mois, trois mois, six mois, un an. Vous choisissez votre format, livre de poche grand format, livre lu, grand caractère. Et ensuite, vous choisissez votre thématique. Et à partir de là, selon tous vos choix, nous, on va choisir un livre pour vous, que vous allez recevoir chez vous, avec dans une boîte, dans une box, accompagné de goodies, de cadeaux. Donc ça peut être de la nourriture, on travaille avec des artisans du coin qui font de la grande, belle qualité. Ça peut être de la papeterie, des objets insolites, etc. Voilà. Donc pour nous, c'est une façon aussi de rajouter de l'économie à la vie de la librairie, de toucher des gens qu'on ne peut pas toucher autrement, hors cadre, hors région, et continuer à faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire du conseil, en utilisant un peu les outils des gros mastodontes du net, en allant un peu sur leur terrain, mais en le faisant à notre façon et en gardant notre identité. Donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu, il est clair, c'est continuer à soutenir l'économie de la librairie physique, mais en allant sur le terrain de l'e-commerce, ce qui à la base c'était pas trop notre projet, mais aujourd'hui il faut y passer. Ça sert à rien de pleurer, de se dire qu'Amazon, Fnac sont en train de nous manger tout cru. Il faut anticiper tout ça, on le sait, c'est inexorable, et donc il faut être inventif, et voilà.
Et est-ce que la librairie n'est pas un peu protégée justement par les tarifs éditeurs et tout ça? Il me semble que, je ne suis pas expert là-dedans, mais il me semble qu'il y a une histoire de tarifs éditeurs qui fait que même un site internet comme Amazon ne pourra jamais proposer des tarifs qui sont vraiment à prix cassé ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes sûrement plus au courant?
C'est là où... Alors nous, on est protégé par la loi du livre, la loi Lang. C'est pour ça qu'on existe encore en fait. Sinon, il n'y aurait que des entrepôts de livres soldés. Le livre sortirait, il serait tout de suite mis à prix cassé. Et ça, la loi impose un prix public qui soit le même partout. Le problème d'Amazon, c'est que vous et moi, on peut vendre pour Amazon, et un livre qui sort demain, dans une semaine, peut être revendu par une personne lambda qui peut casser le prix. Donc ils arrivent quand même à détourner cette loi, mais effectivement, ça nous protège. Les Leclerc, les Fnac, etc., les gros magasins physiques font les mêmes prix que nous, quoi. Et c'est vrai que souvent les gens pensent que c'est moins cher dans les grandes surfaces, comme le petit pois ou le poisson qu'on achète, voilà. Mais non, en fait, pas du tout. C'est voilà. Et l'avantage de venir chez un libraire indépendant, c'est qu'il y a du conseil, il y a une fidélisation, on peut proposer justement toutes ces choses autour du livre. Il y a du relationnel. Il y a des gens viennent aussi chez nous pour partager, pour échanger, pour voilà. Donc il y a ça. C'est de toute façon, au sens large du terme, ça reste du commerce de quartier, ce qui est en train de disparaître. Et le commerce de quartier, c'est du lien social, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Donc ça dépasse vraiment le cadre de la librairie. Voilà. Après, la librairie, c'est vrai que ça a une dimension quelque part un peu plus noble, un peu plus supérieure, parce que voilà, on vend du sens, on vend du mot, on vend de l'inconnu, on vend plein de choses, c'est tellement riche que c'est super excitant. Voilà, donc c'est nous, notre combat, il est là aussi, quoi. Voilà, maintenir ce lien que tout le monde recherche à un moment, quoi.
Merci beaucoup à vous. Alors peut-être pour finir, vous pouvez nous dire, je vois qu'il me semble que vous lancez un financement participatif pour votre projet de box littéraire. Vous pouvez nous dire tout ça?
Ouais, donc c'est le projet s'appelle Le Facteur Livre. On lance une campagne de financement qui se trouve qui est hébergée par Ulule, qui est un site référencé pour ça. Et la campagne se déroule jusqu'à fin août. Donc vous pouvez aller voir le projet sur la page Ulule, vous tapez Facteur Livre Ulule. Et si vous adhérez au projet, vous pouvez nous soutenir en faisant une petite contribution, ça peut aller de 5 euros à au-delà, donc il n'y a pas d'échelle de valeur. Et nous, en échange, on vous envoie des cadeaux pour vous remercier, notamment les premières box, vous serez les premiers à les recevoir. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça reste le projet d'un commerce indépendant pour avant tout promouvoir le livre et ses auteurs.
Et donc ça marchera dans toute la France du coup?
Ouais, tout à fait, c'est vraiment national. Et donc évidemment, nous, on a mobilisé toute notre clientèle à notre niveau local. Mais à terme, on veut vraiment toucher quelqu'un à Lille, à Strasbourg et continuer à créer ce lien de confiance qu'il y a entre le libraire et ses lecteurs.
Bah, on vous le souhaite en tout cas. On espère que peut-être qu'il y a quelques auditeurs en Occitanie, là où je suis, qui pourront s'y abonner. Mais merci beaucoup à vous. Donc, merci. La librairie Le Festin Nu, ici, voilà. Sur le village Milady, au Festival Biarritz en été. Merci et puis bonne fin de festival.
Merci beaucoup. Merci pour tout.
Allez, une petite pause musicale à présent dans ce magazine sur Radio LBGS, toujours consacré au Festival Biarritz en été. On va écouter une des révélations de ce festival. Ça s'appelle Malik Judy et son album 1 est sorti en 2017. On va écouter sa chanson Au cinéma, extrait donc de cet album, et on revient juste après pour la suite de ce magazine. Restez avec nous. Malik Djoudi avec Au Cinéma, un titre issu de son premier album 1 qui est sorti en 2017. Un artiste d'ailleurs qu'on a pu voir sur la scène du festival Biarritz en été, et on est toujours donc dans votre magazine consacré à ce festival sur Radio Albigès. À présent, on va passer au plat de résistance à quelques mètres seulement du village Milady, là où sont installées les deux scènes qui ont accueilli tous les soirs une dizaine d'artistes. Dans quelques instants, vous pourrez entendre l'interview du groupe Agar Agar d'ailleurs qui a clôturé cette première édition, donc restez avec nous. Et concernant la partie in du festival, alors sur place, rien de très différent de ce qui se fait dans la plupart des festivals modernes. On remarquera quand même ici aussi cette volonté de mettre en avant le local, chaque soir avec un ou deux artistes locaux programmés à l'affiche, comme par exemple la surfeuse Liane, super révélation cette année avec une voix magnifique qui sert une pop aérienne et bien maîtrisée. Seule sur scène avec sa guitare et ses machines, elle a envoûté le festival pour le dernier jour. Le local, évidemment, on le retrouve aussi dans l'assiette avec les stands de nourriture. Tous les restaurateurs viennent du Pays Basque, sauf un qui vient de Toulouse, ce qui n'est quand même pas le bout du monde non plus. Il y a même un brasseur local qui propose une bière plus que correcte. Et même si la pinte coûte 1€ de plus que la bière insipide servie au bar du festival, elle le vaut largement. Les deux scènes permettent donc au public de voir au moins une partie de concert de chaque artiste, puisque quand l'infini l'autre commence et le public donc se balade entre les deux scènes, en passant s'il le souhaite par le toit de la cité de l'océan où sont disposés de nombreux coins détente, avec assises en palettes de récup et parasols qui sont plutôt bienvenus pour les fins de journée ensoleillées. Niveau musique, la programmation laissait une place de choix à la scène française, avec quand même 24 groupes français sur les 30 programmés. Mention spéciale pour la sonorisation du festival, rarement on a entendu un meilleur son sur un événement de cette envergure. En général, c'est souvent fort et mal réglé, mais là on pouvait vraiment profiter de la musique à un bon volume, sans avoir des acouphènes pendant deux jours, et surtout entendre chaque instrument et les voix très distinctement. Pour parler des concerts de manière tout à fait subjective, forcément, les grands moments ont été pour nous la clôture du premier soir avec les deux DJ, The Black Madonna et Daniel Avery, qui ont réussi à faire danser toute la foule malgré de grosses averses et une boue façon Woodstock. Le samedi, sélection un peu plus rock avec une belle claque par The Liminianas et évidemment le show millimétré mais sacrément maîtrisé de Phoenix. Pour le dimanche, on retiendra les prestations de L'Homme Pâle, révélation rap de l'année 2017. Et pour clôturer le festival, on en a eu plein les yeux et plein les oreilles avec le show de Agar Agar et sa chanteuse en transe pendant tout le concert. Et justement, c'est maintenant l'heure d'écouter l'interview de ce magazine. On vous emmène à la rencontre de Clara et Armand. C'est eux qui composent le duo Agar Agar et c'est une découverte française qui promet de belles sorties à venir. On écoute ça et on se retrouve pour la conclusion de ce magazine sur Radio Albigès.
Salut, c'est Agar Agar
pour Radio Albigès.
Donc troisième et dernier jour ici au Festival Biarritz en été 2018, première édition de ce festival, et on est très contents puisque actuellement nous sommes en compagnie de Clara et Armand, donc Agar Agar. Bonjour à vous.
Salut.
Salut.
Yo.
Vous êtes le dernier groupe, vous allez clôturer ce festival. Oui. Donc pour commencer, on va commencer au tout début, il me semble avoir compris que vous étiez rencontrés aux Beaux-Arts. Alors donc j'imagine que vous êtes destinés déjà tous les deux à un métier de création en tout cas. Est-ce que c'était la musique votre premier choix?
Je sais pas si on se destinait dans un métier de création, mais dans la création, enfin on a toujours aimé ça je pense. La musique non, on n'y pensait pas forcément plus qu'autre chose. Je pense que par contre on en fait tous les deux depuis longtemps et on a tous les deux une expérience différente mais assez longue de tout ça. Et du coup je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire et comme à Sergi à tout un groupe de musiciens et que c'est quelque chose d'assez dynamique dans la musique, on a continué.
Et donc comme tu dis, c'était pas votre première expérience, alors c'était quoi que vous aviez fait avant, des expériences perso?
Pas forcément notre première expérience dans le sens où en fait en Beaux-Arts on fait beaucoup de choses, on pratique pas mal de médiums, donc je sais pas, je me rappelle quand on s'est rencontrés, qu'on était dans le même atelier, lui il faisait beaucoup de sérigraphie, beaucoup de dessins, moi je faisais plus, qu'est-ce que je foutais moi? Je faisais des performances avec des jouets où je jouais sur des claviers Barbie, des trucs comme ça un peu, et donc j'avais créé un petit orchestre. Voilà, mais en fait, c'est une école qui est super pour ça, on n'a pas vraiment de règles, quoi, on peut vraiment tout tenter. Quoi.
Ok, d'accord. Et
comment ça vous est venu la musique, du coup c'était naturel, non, et comment s'est passée la rencontre?
La musique ça fait depuis longtemps.
On a tous les deux fait le conservatoire, enfin c'est un truc, on a tous les deux pratiqué en instrument.
Ouais, puis je crois tous les deux on a rapidement, enfin au début de l'adolescence, essayé de composer des trucs, des premières choses.
Et est-ce que avant de commencer à en créer, vous étiez des gros consommateurs de musique aussi? Et qu'est-ce que vous écoutiez, c'est quoi des groupes qui vous ont bien marqué?
Oh bah grave, enfin ouais évidemment, moi j'ai grandi avec un père qui écoute du hard rock. Après j'ai écouté, quand j'étais en 4ème, je jurais que par bloc party, tu vois. Après aujourd'hui j'écoute beaucoup plus de tout, beaucoup de R&B, beaucoup de musique expérimentale, beaucoup de classiques. Ça, la tranche va assez loin.
Bah pareil, ouais, toujours beaucoup de musique. Moi j'ai grandi plutôt dans les disques de musique psychédélique que mon père collectionnait. Mais sinon, non, mais enfin, après moi j'ai eu un parcours plus musique électronique, je me suis dirigé vers ça assez vite en fait dans ma vie. Et j'ai continué là-dedans en fait, tout simplement.
Et tu parlais du fait que toi t'as été aussi inspiré par la collection de disques de ton père, est-ce que vous pensez que le milieu familial a eu une influence aussi sur ça?
Oh bah forcément, le milieu familial a une influence sur ce que t'écoutes. Après sur ce que t'écoutes quand t'es au sein de la famille, je pense, mais...
Ça évolue vite.
Oui, tu te détaches très vite de tout ça.
Il y en a aussi des fois qui viennent de familles qui sont pas du tout consommatrices de musique.
Ouais, bien sûr. Mais après, c'est tout à fait. Mais moi, je sais que ma mère en écoute pas énormément, mais mon père à foison, quoi.
Je pense qu'il y a pas de règle, mais ça dépend aussi vachement de. Il y a les parents jouent un rôle, mais les amis, la limite plus en fait. Et donc ça dépend aussi beaucoup de ça. Si on se fait rapidement au collège et tout des amis qui écoutent de la musique avec qui on peut partager, ça vient aussi.
Premier single, c'était Prettiest Virgin, donc c'était un peu gros succès immédiat. Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que c'était un truc auquel vous avez imaginé que ça pouvait se passer comme ça, et comment vous avez réagi?
Pas du tout, mais par contre ça nous a carrément fait plaisir.
Ouais, bah non, mais clairement on n'a pas du tout fait ça pour ça, et on s'attendait pas du tout à ça. Après, voilà, plaisir et puis une expérience aussi des choses. C'est intéressant de rentrer dans tout ça, tu vois, à un moment donné justement il y a un label qui nous contacte, on signe, etc. Et tout ça, ça apporte beaucoup, d'expérience, de recul sur ce qu'on fait, et aussi tout le lien qu'il y a entre ce qu'on fait et le potentiel commercialisation de ce qu'on fait. Donc, parfois ça fait mal, parfois on en voit aussi des qualités, plus ou moins, mais il faut toujours garder une distance, quoi, entre, je pense, ce qu'on fait spontanément et la manière dont c'est agencé, on va dire, ouais, dans sa vie, dont c'est véhiculé, dont c'est communiqué, commercialisé.
Tout à fait.
Ok. Donc ce label dont tu parles, j'imagine c'est Cracky Records. Ouais. Donc du coup, tu as en partie répondu à la prochaine question, c'était comment s'est passée la rencontre. Donc du coup, tu nous disais c'est eux qui vous ont approché, comment ils ont été au courant de votre musique, et comment ça s'est passé la rencontre.
On avait un ami en commun qui était au Beaux-Arts en fait, okay, avec nous.
On l'a toujours d'ailleurs.
Oui. Qui nous a présenté tout simplement en fait. Et ils sont venus nous voir pendant une espèce de petit concert d'improvisation. Où on venait de jammer ensemble, quoi, ouais, pour la première fois. Et c'est un peu concrétiser les choses, quoi. Nous, on n'avait pas de nom, on s'en foutait un peu. On était vraiment dans l'enceinte de notre école. On pensait pas du tout à concrétiser ça, en tout cas. Donc voilà, la construction, elle s'est faite à partir du moment où ils sont arrivés aussi, quoi, carrément. Ouais.
Et du coup, ça vous a apporté quoi
Ah bah, ça nous a apporté tout ce qui fait qu'on est là. Enfin. Je pense, hein.
Beaucoup de choses.
Il y a aussi votre composition quand même, hein.
Oui, bien sûr. Après, ça s'est vraiment construit comme ça. C'est un fait, ouais, quoi. Oui,
après, il faut pas nier le fait que c'est, en fait, je pense que c'est en France et un peu partout ailleurs. En tout cas, là, bon, c'est le cas dans le contexte de ce festival, par exemple. je pense que la totalité des artistes qui jouent ici sont dans un label, ils ont un booker, ils ont toute une organisation professionnelle, commerciale autour d'eux. Et alors c'est pas le cas partout, hein. Il y a plein de scènes, énormément de scènes en fait, je pense même il y a plus d'artistes qui n'ont pas cette structure là. Et ça fonctionne aussi, ça peut fonctionner très très bien. Le fait est que nous, ça nous a un peu tombé dessus, on a accepté et on est là aujourd'hui, voilà.
Après, Cracky Records, c'est vrai que c'est quand même une grosse, un gros label, c'est pas non plus les majors comme Universal
et
tout ça.
Ah non,
ça,
pas,
ça reste
c'est
quand
pas
même
major.
Sur le circuit indépendant.
Heureusement, enfin, je pense que nous, on n'est pas du tout là-dedans, donc...
On se sentirait vraiment pas bien, je pense, dans une relation complètement inégale.
On n'aurait jamais fait ça si c'était d'autres personnes un peu plus fat qui nous auraient approchés, je pense.
Ouais, je pense qu'on aurait craint beaucoup de choses.
Et justement, maintenant que vous avez un peu plus du coup d'expérience avec ça, si jamais il y avait un major qui arrivait et qui vous proposait une signature...
Non, moi je crois qu'il faut rester humain et garder des relations de confiance avec les gens. Et si la relation de confiance, elle est là, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller voir ailleurs. Ou, tu vois, bah, après, tout dépend de ton expérience musicale. Hein. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de plein
de... De ta vie, des choix que tu fais dans la vie. Nous, je pense qu'on est dans un délire où on préfère... à la limite, prendre plus le temps de se développer sereinement pour qu'aussi la musique qu'on propose suive ce qu'on a.
Des choses, ouais.
Quitte à refuser des choses, qu'on ait toujours une mainmise sur notre musique déjà, qu'on puisse faire absolument tout ce qu'on veut quand on veut, sur aussi la manière dont on se présente aux gens, la manière dont on communique le projet, c'est des choses qui sont pour nous importantes et qui peuvent être ratées en fait. Et déjà en fait, avoir l'expérience de tout ça, grandir un peu là-dedans, comprendre comment ça se passe, ça prend du temps. Et donc du coup, travailler avec des gens qui te permettent de prendre ce temps-là et qui sont pas pressés derrière tout de suite des arrivées d'argent énormes et immédiates, et ça permet de comprendre les choses dans une belle temporalité et surtout de garder la musique au centre de la question.
Cuidado, peligro, eclipse. Cuidado.
Clara et Armand, donc le groupe Agar Agar sur Radio Albigès ou Radio FMR, je ne sais pas sur laquelle vous nous écoutez, mais donc on va parler un petit peu de la création, la composition. On sent qu'il y a comme une grosse passion synthé. Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
Ah bah oui, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos machines?
En fait, les machines que j'utilise avec Agar Agar, c'est marrant parce que c'est les premières machines, toutes premières machines que j'ai achetées. Et c'est du coup, c'était un peu même, j'avais d'autres machines au studio quand on s'est vu, mais j'ai branché vraiment le setup de base, un peu le truc, tu vois, dans lequel j'avais le plus confiance, que je connaissais le mieux. Et en fait, c'est marrant parce que c'est resté peu ou prou la même chose. Il y a quelques petites choses qui sont rajoutées, mais globalement, on garde en ayant la sensation que c'est pas, qu'on n'a pas encore épuisé ce setup là, quoi, et les possibilités que ça offre. Maintenant, je pense que c'est amené à évoluer, enfin, on verra.
Il m'a semblé reconnaître un micro Korg. Est-ce que je...
Alors pas du tout. Il y en avait un au tout début.
Il y en avait un en live, mais en enregistrement.
Mais juste en live,
jamais,
en enregistrement, ouais. Jamais, okay. On l'a jamais utilisé. Alors pour tout avouer, moi j'aime pas trop ce synthé. Alors je l'ai eu en fait. C'était mon premier synthé pour mes 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Mes potes m'ont offert ce synthé-là.
C'était mon premier synthé aussi.
Ouais, ça a été le premier synthé de beaucoup de gens de notre génération en fait. Parce qu'il était, il a un peu ce truc versatile, machin. Mais après, voilà, je me suis dirigé assez vite en fait vers des choses qui avaient un peu plus de personnalité. C'est un synthé, c'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'a sa petite personnalité de micro-corg, mais qui a pas vraiment de coffre, je vais dire.
Beaucoup d'âme, ouais.
C'est vrai.
Et donc, du coup, voilà, rapidement, je me suis dirigé vers des trucs purement analogiques. Ça m'a fait un bien fou. Puis après, je suis retourné vers des synthés digitaux, mais dans un esprit plus années 90, les synthés FM, etc. Et maintenant, je croise beaucoup de choses en fait, plein d'époques, plein de des choses très actuelles, des choses, enfin des synthés d'aujourd'hui, des synthés des synthés années 70 de demain.
Et au niveau de la création, alors est-ce que vous avez vraiment des rôles définis ou est-ce que tout le monde met les mains dans le cambouis?
Non,
et,
on est sur les machines, on fait.
Ouais.
Et voilà.
Donc, justement, on a décidé très très vite de pas définir, de pas cadrer les rôles. Le truc un peu classique, comme
c'est pas toi, Armand,
Clara vient plus du chant et moi je viens plus de la musique instrumentale, ça aurait été de se dire, ah, bah Clara, tu vas chanter, moi je vais faire les prods. Et c'est un peu comme ça que beaucoup de gens en parlent. Il y a quelque chose qui est à moitié vrai là-dedans parce qu'on vient de ces univers-là, donc Clara elle apporte beaucoup dans le chant, moi j'apporte beaucoup dans les machines, mais on a très vite décidé de mélanger tout ça. Alors moi je me suis pas mis à chanter parce que j'ai pas envie, mais je fais des bruits de chien sinon, mais c'est plus que ouais, on a jamais voulu, surtout sur la, en plus il y a la question du genre là-dedans, genre la fille chanteuse de mec aux machines, etc. Et on en a déjà fait plein de fois dans des articles parce que c'est, je sais pas, les... Je pense que c'est facile à comprendre pour les gens, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas, en tout cas, on n'aime pas cette étiquette-là.
Au niveau de la création d'un morceau, moi quand j'écoute ce que vous faites, j'ai l'impression des fois que c'est comme une espèce de transe. Tout à l'heure vous parliez, vos premières performances étaient du live comme ça, où il n'y avait pas forcément de logique de création de morceaux en amont, et c'est vrai que sur vos compositions on dirait que vous êtes parti avec un rhythm, un riff qui revenait, et puis toi par exemple t'as posé les paroles dessus, des paroles comme
seraient
venues sur
ça,
le
ouais.
moment.
Ouais. Ce qui est intéressant c'est que en fait quand on s'est rencontré avec Clara, elle a spontanément utilisé sa voix vraiment comme un instrument de musique, et donc ça donnait des choses qui étaient plus de l'ordre du yaourt en fait, où le texte à la limite avait moins d'importance en premier abord, mais plus la musicalité du truc, et les mots ont été trouvés à l'appui de cette musicalité là, et moi je trouve ça génial en fait. Maintenant ça tend à évoluer, à grandir, on cherche différentes formules, parfois les textes sont écrits avant, parfois pas, enfin c'est très variable, mais en tout cas ouais, tout se fait comme ça dans le jam électronique, allumer les machines, faire tourner une boucle d'un synthétiseur, voir construire petit à petit les choses quoi.
Pourtant je trouve que les textes sont quand même très imagés et votre musique même très cinématographique.
Ah oui, non, mais après ça veut pas dire qu'on se penche pas sur les textes.
Oui,
ça
oui.
veut juste dire que la période de composition, moi je joue comme si j'étais un piano quoi, dans
ouais,
le sens
comprends.
Où je me laisse aller, tu vois. J'improvise vraiment. La partie parole, elle vient après et on se cale et on se dit putain, on a envie de parler de quoi, tu vois. Ah bah je suis en train de lire cette BD, j'ai envie de parler d'enfermement, d'une nana complètement foncedée dans son bed, tu vois. Et voilà, et c'est tout. Et je crois que c'est important pour nous aussi d'aborder des sujets pas forcément, tu vois, d'amour ou de choses très passionnelles. Pour moi, c'est aussi très très beau de décrire une image, quoi, comme une image de rêve. Et je trouve que c'est important.
Ou une image ou une situation même, l'état d'un corps dans un endroit. En fait, c'est des choses qui, au final, pour nous, je pense, sont extrêmement émotionnelles. Mais on n'a pas trop envie de parler de l'émotion en tant qu'elle-même. De parler d'amour avec le mot amour, quoi. Et je pense qu'on peut toujours en parler différemment. D'amour ou d'extase ou de dépression. On peut parler de ces choses-là avec d'autres biais. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on ouvre un peu le truc. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses.
Mais en tout cas, c'est assez réussi parce que moi, maintenant que je vous entends décrire la manière dont vous voyez vos morceaux, quand j'écoute Prettiest Virgin, je vois vraiment la scène du club, la fille qui choisit sa plus belle robe et qui va choisir là, et puis on voit deux êtres comme ça au milieu d'un club. Enfin, c'est vraiment très... En tout cas, ça passe, ça marche pour faire passer les sentiments. Et est-ce qu'il y a un sentiment, une émotion particulière que vous avez envie de déclencher chez les gens qui vous écoutent?
Alors ça, on n'y pense pas trop. On est plus... nous, on est très instinctifs, hein, donc... on va jamais en fait penser en amont à la réaction d'un spectateur, parce que sinon je pense qu'on peut se perdre très vite là-dedans et c'est pas nécessaire quoi. Je pense que c'est pas la bonne question en tout cas à se poser.
En fait, c'est une question qui est plus c'est marrant parce que c'est Jim Carrey qui avait dit ça, bah d'ailleurs dans une interview qu'il y a sur Netflix en son. Il disait quand j'étais gamin, etc., enfin quand j'ai commencé le one man show, je me disais, il y avait une question qui tournait dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Et en fait, ça, je trouve que c'est une question qui est hyper en fait commerciale. Alors, ça mène pas forcément vers des choses mauvaises, parce que c'est un mec, Jim Carrey, c'est un type qui a fait des choses incroyables. Ouais. Mais c'est bon, pour le coup, c'est vraiment voilà, il est bien ancré dans son pays, quoi. Qui est le pays du capitalisme. Et en fait, c'est une question qui est avant tout capitaliste, c'est-à-dire quel produit je vais fabriquer pour quelle clientèle. Mm-hmm. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là-dedans, je pense.
Okay,
on est français. Donc...
Non, je le voyais pas tellement dans ce sens-là, mais peut-être vraiment au niveau émotionnel. Quoi. Des fois, on peut se dire, genre, j'ai envie que sur cette chanson, les gens se sentent bien, peut-être les gens soient tristes ou les gens ressentent ma peine ou ce genre de choses. Quoi. C'était pas tellement le côté le côté
ouais,
quel produit.
Ça se rejoint dans un.
Mais c'est vrai, vous avez raison.
De toute façon, on se pose pas cette question, je jure.
So I can pet you and bat you hard. I can feel your skin scratching from the woods. I will leak the frost leaching through the ditch. Au
niveau de l'univers visuel, c'est quand même assez très travaillé, les clips sont très beaux, au niveau même des pochettes d'EP, des singles et tout ça. Est-ce que c'est important pour vous de mettre le visuel aussi lié comme ça à la création musicale ou comment ça se passe, comment vous l'abordez?
Oui, c'est essentiel pour nous, pour nous un projet global, il faut qu'il ait une entité, il faut qu'il ait un esthétique, il faut qu'il ait un monde autour quoi, qu'on comprenne ce monde là et qu'on se sente bien dedans, donc c'est carrément indispensable.
Ouais, puis je pense même dès le début, en fait, dès le tout début de quand on a composé ensemble, on mettait des images, justement au lieu de parler de musique et de se dire
des images, ouais.
Au lieu de dire voilà quel type de musique on a envie de faire, etc. On se disait plutôt sur quelle image on aimerait composer. Donc on faisait tourner en boucle des images, par exemple de jeux vidéo pour tel morceau ou des images de films pour tel autre morceau, etc.
Bon, malheureusement, on vient de nous faire signe qu'il fallait abréger, alors peut-être juste parler quand même de votre album qui va arriver. Donc, Clara et Armand, pour
yes.
Agar Agar, c'est l'album, il est prévu pour quand? On a quelques extraits qui sont sortis
fin septembre.
Ok.
Et ça va être un album, c'est un album qui a été composé en deux parties. Une partie qui a été composée sur bande et une partie qui a été composée au studio Ferber. Et voilà, donc il y a beaucoup de balades. On est rentré dans quelque chose d'un peu plus doux, je pense, de moins rythmé. Voilà.
Ouais, moi je pense qu'en fait le but de cet album, c'était, comme c'est aussi un premier album, etc., c'était après le premier EP d'ouvrir plein de portes différentes, de tester différentes manières de composer, voir ce que ça donnait. Ça a été un album sur lequel on a pas mal expérimenté, je pense, et on a gardé que ce qui nous plaisait de ces expériences là mais enfin voilà, le but c'était d'ouvrir le maximum de portes pour voir lesquels on allait pourquoi pas refermer ensuite, ou lesquels on allait vouloir ouvrir par la suite, etc. Je pense qu'on va continuer comme ça.
Voilà. Ben merci beaucoup, vous m'avez mis encore plus l'eau à la bouche. Le premier album d'Agar Agar, c'est pour fin septembre prochain. Guettez ça vraiment parce que ça va envoyer du lourd. Merci beaucoup à vous, ici Agar Agar à Biarritz en été.
Merci.
Et on termine cette interview avec le morceau Sorry About The Carpet, le dernier titre en date du groupe Agar Agar, un extrait du futur album The Dog and the Future qui sortira donc fin septembre 2018 chez Cracky Records. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Pour retrouver le podcast, rendez-vous sur le site www.radioalbiges.com. Sleep. Proche de la fin de ce magazine consacré, on le rappelle, au festival Biarritz en été 2018. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. On vous invite à vous rendre sur le site www.radioalbiges.com pour écouter également l'interview du groupe L'Impératrice réalisée pendant le festival. Plusieurs remerciements à adresser, tout d'abord à Mélissa pour avoir assuré le lien avec les artistes et organisé les interviews. Merci aux artistes pour leur disponibilité et leur sympathie. Merci à la librairie Le Festin Nu et aux associations Du Flocon à la Vague et la Surfrider Foundation. On vous invite à en apprendre plus sur les actions de ces deux associations pour défendre l'océan. Si vous avez participé au festival Biarritz en été, vous pouvez également aider l'organisation à s'améliorer en remplissant le questionnaire qu'ils ont diffusé sur les réseaux sociaux et les aider à faire en sorte que l'édition prochaine soit encore plus réussie que celle-ci. Merci à vous, Adicias et Milesker Biarritz.